Europe 1.
Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il va falloir acheter des bougies, peut-être même des réchauds. Dès le mois prochain, nous vivrons probablement des coupures d'électricité. Avec l'hiver et les réacteurs nucléaires à l'arrêt, le réseau pourrait être trop sollicité et les délestages seraient alors la seule solution. 60% des Français pourraient être concernés. Baptiste Morin et Elisabeth Borne a rédigé une circulaire à l'attention des préfets qui détaille tout le scénario et que vous avez pu consulter.
Oui, on y apprend d'abord que le gouvernement travaille sur l'hypothèse de 6 à 10 délestages, donc 6 à 10 coupures de courant de 2 heures cet hiver, jusqu'à 4 millions de Français concernés simultanément. Les écoles en zone délestée n'ouvriront pas le matin pour éviter les cours sans lumière et sans chauffage. Des trains seront annulés pour éviter d'être bloqués en pleine voie. La circulaire confirme aussi que les réseaux télécoms seront touchés. Téléphonie et Internet ne fonctionneront pas, c'est écrit noir sur blanc. Tout est misé sur le 112, seul numéro qui utilise toutes les antennes, quel que soit l'opérateur. Mais ce numéro ne sera pas joignable à coup sûr non plus.
Baptiste, pardonnez-moi, l'été dernier, Mediapart avait annoncé que des délestages étaient en préparation. Le gouvernement, à l'époque, avait démenti l'existence d'un tel plan. Bon, on voit finalement que tout était prêt. Pourquoi l'exécutif a-t-il tant tardé à annoncer la couleur aux Français ?
Il a temporisé, sûrement par peur de faire peur. Au cours de l'été, vous avez raison, il avait démenti. À la rentrée, il était impossible de parler de délestage avec les ministères et les cabinets qui semblaient toujours refuser l'hypothèse. La météo clémente de l'automne les a aidés à repousser l'échéance, mais l'annonce de RTE d'un risque accru pour le mois de janvier, a changé la donne. Il faut bien comprendre qu'à un mois de ces possibles coupures de courant et des coupures de réseau téléphonique, la carte des zones qui n'auront même pas accès au 112 reste aujourd'hui encore inconnue. Les préfets doivent la recevoir, mais elle n'existe pas.
Alors les opérateurs de réseau vont indemniser les entreprises volontaires pour accepter les coupures. Pourquoi on ne ferait pas ça avec les particuliers ? Je vous poserai la question tout à l'heure à 8h40, Baptiste Morin, dans le club de la presse Europe 1. Je vous dis à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Les prix de l'énergie, la relance économique américaine aussi, au cœur des échanges entre Emmanuel Macron et Joe Biden à Washington.
Oui, au premier jour de sa visite d'État hier, le président de la République a tiré la sonnette d'alarme. Les mesures super agressives des États-Unis pour doper leur industrie menacent l'attractivité européenne.
Les choix faits, en particulier l'Inflation Reduction Act, sont des choix qui vont fragmenter l'Occident. Parce qu'ils créent de telles différences entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe que pour toutes celles et ceux qui travaillent dans nombre d'entreprises, ils vont juste se dire on ne fait plus d'investissement de l'autre côté de l'océan. Et ces choix ne peuvent fonctionner que s'il y a une coordination entre nous.
Voilà, Emmanuel Macron qui appelle donc à resynchroniser la France et les États-Unis. Alors, symbole de l'amitié franco-américaine, les deux couples présidentiels ont terminé la journée hier dans un restaurant italien.
Pizza et pasta. Bon, aujourd'hui c'est fini. Changement de décor et de costume. Jacques Serret, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 aux États-Unis. Emmanuel Macron est reçu dès ce matin en grande pompe à la White House.
Oui, c'est la journée du faste protocolaire. À 9h heure locale, 15h à Paris, le président et la première dame seront accueillis à la Maison Blanche. Une cérémonie haute en couleur avec les hymnes nationaux, le passage en revue des troupes et 21 coups de canon. Juste après, Emmanuel Macron sera reçu dans le bureau ovale pour un entretien avec Joe Biden qui devrait durer près d'une heure et demie. Les deux dirigeants s'exprimeront à l'issue lors d'une conférence de presse conjointe et ils se retrouveront quelques heures plus tard pour le très chic dîner d'État entre 300 et 400 invités réunis sous une grande tente dans les jardins de la Maison Blanche. L'ensemble des membres de la délégation française y est convié, dont les chefs d'entreprise Bernard Arnault, le PDG d'LVMH, ou encore Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy. Smoking et robe de soirée de rigueur. Au menu, du homard, du caviar, des fromages américains et un gâteau à l'orange.
Et Jacques, serez-vous aussi, vous assisterez à ce toast des présidents?
Oui, nous sommes une petite dizaine de journalistes à avoir été tirés au sort. Il y a tellement d'invités que le nombre de places pour la presse est limité. Je vous rassure, donc, le micro Europe 1 sera bien au toast qui ouvrira ce dîner d'État. Promis, je vous fais le compte-rendu demain matin.
Merci Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 aux États-Unis, qui a déjà son nœud papillon pour suivre cette soirée à la Maison Blanche. Vivement demain.
Of course, 8h05 sur Europe 1, retour en France. Docteur en grève, cabinet fermé. L'annonce devrait être placardée sur la porte de nombreux médecins généralistes aujourd'hui.
Oui, hein. Tous les syndicats de médecins libéraux appellent à la mobilisation. Ce n'était pas arrivé depuis 15 ans. À bout de force, démoralisés, ils réclament notamment une revalorisation de leurs honoraires, car une consultation à 25 € pour Benoît Labenne, qui est médecin généraliste à Drancy, en Seine-Saint-Denis, c'est largement insuffisant, écoutez.
Avec une consultation à 25 €, une fois qu'on a enlevé nos charges, il nous reste moins de 10 € en net.
On ne peut pas payer une secrétaire pour nous donner les moyens de mieux soigner la population, de pouvoir faire des consultations qui durent au moins 20 minutes, parce que là, on fait de la mauvaise médecine. Donc, on ne demande pas plus pour demander plus, on demande une remise à niveau par rapport au tarif moyen européen. Hier, j'ai reçu un patient roumain, je lui ai demandé 25 euros, et il m'a dit « Docteur, c'est vraiment pas cher, dans notre pays, c'est beaucoup plus cher, et en plus, c'est pas remboursé. » Et nous, de plus en plus, on a l'impression de faire l'aumône. Les patients, ils nous donnent 30 euros, ils nous disent « Gardez la monnaie », comme si on était des miséreux. On commence à déprimer. On est dans le burn-out quasi quotidien.
Le docteur Benoît Labène au micro européen de Céline Géraud qui réclame le doublement de ses honoraires et passer à la consultation à 50 euros. Grève également à venir à la SNCF ce week-end. Les contrôleurs demandent de notamment une hausse des salaires. Dès demain, seuls 4 TGV et Intercités sur 10 circuleront.
8h07, c'est un véhicule qui semble hors de portée aux bourses de beaucoup de Français. La voiture électrique, bonne nouvelle, elle pourrait bientôt devenir nettement moins chère.
Grâce à une innovation technologique du géant chinois CATL, premier constructeur mondial de batteries, dès l'an prochain, il va mettre au point un modèle non plus au lithium, très polluant, mais au sodium. Le sodium, qu'est-ce que c'est exactement? C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1 avec Margot Fodéré.
Le sodium, ou Na, là où vous avez le plus de chances d'en trouver, c'est dans la mer, dans votre bouteille d'eau, dans votre sel de table, dans vos légumes ou encore dans votre lait, il y est dissous. Mais quand il est extrait, il apparaît sous la forme d'un métal mou, de couleur argentée, et ce que les chimistes aiment chez lui, comme chez son cousin, le lithium, c'est qu'il produit de grandes quantités d'énergie quand il est au contact de l'eau. C'est ce qu'on appelle un métal réactif. Et c'est précisément cela qui le rend très intéressant pour construire des batteries. Car s'il est un peu moins efficace que le lithium, le sodium est beaucoup plus répandu dans la nature et donc moins cher. Un véritable avantage quand on sait que les batteries représentent un quart à un tiers du prix d'une voiture électrique.
Margot Fodéré.
Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h.
La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, Europe 1, radio officielle.
Et c'est déjà le milieu de la matinée à Doha au Qatar. Première défaite, premier couac pour les Bleus hier après-midi. Défaite 1-0 face à la Tunisie.
Ouais, le but de l'égalisation signé Griezmann a finalement été annulé après le coup de sifflet final. L'équipe de France a déposé un recours auprès de la FIFA. Mais cette défaite est sans conséquence sur nos résultats car in fine, les Bleus mettent toujours le cap sur les huitièmes de finale.
Alors la prochaine rencontre, justement ce huitième, ce sera, sera dimanche à 16h en direct et en intégralité évidemment à vivre sur Europe 1 face à la Pologne.
Jean-François Pérez sur le papier, la Pologne c'est un adversaire à la portée des Français mais va falloir quand même se méfier parce que le groupe polonais est aussi emmené par un joueur d'exception.
Oui, la Pologne c'est avant tout Robert Lewandowski, l'un des plus grands buteurs du foot actuel. Lewa, comme on le surnomme, a longtemps fait le bonheur du Bayern Munich, 375 matchs et quasiment autant de buts sous le maillot bavarois. Des statistiques presque incroyables, 8 titres de champion d'Allemagne, une Ligue des champions et des distinctions à l'appel. Avec son pays, c'est la même chose. Le désormais joueur de Barcelone détient le record de sélection, de buts. Un leader incontesté à qui il ne manquait qu'une réussite en Coupe du Monde. Elle est venue face au Mexique la semaine passée. Un but qui a pesé lourd dans la qualification des Polonais. Pour le reste, et malgré des individualités fortes comme le gardien de la Juventus, Chesney, qui a stoppé hier soir un pénalty de Messi, ou encore l'ancien attaquant de l'OM, Arek Milik, c'est une sélection moyenne à l'échelle européenne, 26e au classement FIFA, dont le dernier coup de maître remonte à 40 ans, une troisième place à la Coupe du Monde, aux dépens de la France. Mais depuis 1982, en 7 confrontations, les Bleus n'ont plus jamais perdu face aux Polonais.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1 depuis Doha, qu'on retrouve à 8h30 pour le journal de la Coupe du Monde.
Et effectivement, tout à fait, vous avez raison, Fanny Marceau, merci à vous.
Merci à vous.